Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint.
Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça?
Vous mériteriez vraiment d'être blanc.
J'ai jamais pu saquer les gouines.
Je suis bien d'accord avec la grosse.
Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Isabelle Bonny-Lecoff, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris 8 et docteur à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle conduit des recherches sur la féminisation des emplois cadres et des professions d'expertise. Avant de se lancer dans la recherche, elle a longtemps travaillé dans la banque et ensuite dans le conseil en management. C'est en commençant à donner des cours à l'ESSEC qu'elle s'est rendue compte qu'elle voulait s'orienter vers une démarche de recherche. Depuis, elle interroge sur la féminisation des emplois cadres et des professions d'expertise. Au croisement de la sociologie économique et de la sociologie du genre, son travail étudie un espace professionnel et marchand au prisme de sa féminisation et y analyse les régimes de genre, systèmes dynamiques d'inégalité selon le sexe. Elle s'intéresse à la façon dont le corps, la voix sont mobilisés et façonnés dans les emplois de service aux formes de travail émotionnel, relationnel et esthétique qui sont pratiquées et aux rapports sociaux de genre mis en jeu dans ces métiers. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé cette reconversion professionnelle ?
Alors, j'avais passé 20 ans dans la banque puis le conseil, dans l'action, dans le management, et j'avais vécu toute une série de situations professionnelles passionnantes, mais j'avais envie de prendre un peu de recul et d'étudier sous un autre angle le monde des entreprises, notamment la question des inégalités professionnelles.
Alors justement, c'est quoi le point de départ de vos recherches ? Est-ce que c'est peut-être votre expérience personnelle qui...
Alors, le point de départ de mes recherches, ce n'est pas nécessairement que mon expérience personnelle. Bien sûr, comme j'ai travaillé dans des métiers qui étaient des métiers peu féminisés, notamment la banque, puis le conseil, je me suis trouvée à plusieurs reprises confrontée à des situations de sexisme au travail ou à des situations parfois de discrimination pleine et entière. Mais aussi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le monde du conseil, je suis allée à la rencontre du syndicat professionnel du Syntec, le syndicat professionnel des consultants. Et là, j'ai été un peu saisie, j'ai eu un peu un choc parce que je suis arrivée et j'ai interagi avec un groupe qui était uniquement masculin. Tous les membres du conseil d'administration du Syntec de l'époque, qui étaient des gens tout à fait charmants, c'était tous des hommes et ils avaient l'air de faire un constat de la fatalité. Il y avait peu de femmes dans le conseil et ça semblait être quelque chose qui ne pouvait pas changer. Alors ça m'a quand même interrogée et j'ai été saisie par ça. C'est ça qui m'a donné envie un petit peu d'aller questionner d'où venait ce fameux plafond de verre et cette faible féminisation du conseil.
Alors justement, vous avez une méthode que vous avez utilisée pour mener à bien vos recherches. Est-ce que très brièvement, vous pouvez nous en parler ?
Alors la méthode, donc je suis sociologue du travail et du genre et je travaille à la fois par méthode quantitative et qualitative. Alors quantitative, ça veut dire que je fais passer des questionnaires d'enquête à une population très large. Là, en l'occurrence, c'était 1600 consultantes et consultants dans 23 entreprises de conseil. Ça me permettait de comparer plein de situations professionnelles très variées.
Oui, c'est un bon échantillon.
C'est un très bon échantillon, très représentatif. Et puis l'autre aspect de la recherche, c'est une recherche dite qualitative, par observation, par ethnographie, c'est-à-dire j'ai été observer des situations de travail concrètes, comment les consultantes et les consultants vivent au travail avec leurs clients. Et puis, je suis allée faire des entretiens biographiques, des récits de vie, où des consultantes et des consultants, 76 au total, à peu près moitié-moitié, hommes et femmes, m'ont parlé de leur parcours professionnel, de comment ils avaient choisi le conseil.
Alors justement, vous avez été interrogé plusieurs entreprises. Qu'est-ce que vous avez constaté On va avoir le temps de pouvoir détailler, mais vraiment pour le coup, sur les organisations en tant que telles, est-ce qu'elles sont un lieu actif sur le plan des inégalités femmes-hommes ou pas du tout?
Alors c'était un de mes points de départ, une de mes questions de départ, c'est que tout en interagissant avec des gens qui avaient l'air de dire que c'était une fatalité, qu'il y ait peu de femmes, et notamment peu de femmes partenaires, par exemple, bah, je me suis rendu compte progressivement dans mes premiers entretiens qu'il y avait quand même des situations très contrastées, qu'il y avait des entreprises qui étaient en fait très, très ouvertes aux femmes, et à la base et au sommet, et d'autres pas du tout. Donc, en fait, ça remettait un peu en question l'idée qu'on aurait un plafond de verre uniforme, partout le même. Et c'était un petit indice que quand même les entreprises ont un rôle actif pour fabriquer des inégalités, ou au contraire fabriquer de l'égalité, qu'elles peuvent jouer un rôle vraiment déterminant.
Même si, parce que c'est souvent le discours qu'on entend, de dire que bah, c'est aussi, l'entreprise, mais il y a aussi le fait que bah, l'entreprise, elle est limitée dans son action, puisque c'est aussi des sujets qui traversent la société.
Bien sûr. Alors, effectivement, un des arguments qui est un argument juste et réaliste, c'est qu'une partie des inégalités se fabrique en dehors de la sphère du travail. Elle se fabrique notamment dans la sphère familiale, la vie privée, notamment dans la répartition des tâches domestiques. On sait, c'est encore très, très documenté, que les femmes prennent beaucoup plus en charge que les hommes, tout niveau social confondu, les tâches parentales, les tâches domestiques, et que ça a des effets, bien sûr, sur leur disponibilité au travail, sur leur carrière. Mais en fait, malgré ce pan-là qui est un pan sur lequel l'entreprise ne peut rien faire, elle ne va pas agir sur la répartition des tâches domestiques, elle peut en revanche agir sur d'autres domaines et d'abord sur ses pratiques de gestion et ses pratiques RH, ses processus RH, sur la manière dont elle recrute, sur la manière dont elle rémunère, sur la manière dont elle staffe ses consultantes et consultants, sur la manière dont elle promeut ou pas. L'ensemble des processus a des effets qui peuvent être égalitaires ou inégalitaires. De la même façon, l'entreprise, elle peut aussi promouvoir un cadre de travail plus ou moins respectueux ou au contraire laissant faire le sexisme. Et là aussi, l'entreprise, elle a des leviers d'action. On va peut-être en reparler de manière un peu plus détaillée après.
Tout à fait. Justement, on va pouvoir y revenir dans quelques minutes. Mais avant, vous êtes beaucoup intéressé au processus de gestion de carrière dans les cabinets de conseil. Et ça serait intéressant d'avoir votre constat, puisque vous parlez de processus de gestion de carrière formel et informel. Ça serait intéressant justement d'avoir votre éclairage sur le sujet.
Oui, alors la spécificité du monde du conseil, c'est que c'est un monde qui à la fois est très encadré par des processus RH, notamment d'évaluation. Les consultants sont très évalués, ils bougent beaucoup de mission en mission, de projet en projet, et du coup, en fait, ils sont beaucoup évalués, ils changent souvent de statut professionnel, de niveau professionnel. Il y a des entreprises de conseil, des grosses entreprises qui ont des systèmes de passage de grade très, très fréquents. Et en fait, ça crée un cadre formel qui a des effets sur le fait qu'il faut avoir un rythme de carrière. En fait, il vous est imposé un rythme de carrière, que si vous ne suivez pas ce rythme de carrière, vous risquez en fait de devenir perçu comme un consultant ou une consultante à moindre potentiel. D'accord. Le potentiel qu'on dégage progressivement, il se fait dans la rapidité avec laquelle on passe d'un grade à un autre. Alors, c'est ce processus-là, qui est très formel, il a des effets un peu informels. C'est-à-dire qu'il fait que les consultants intériorisent l'idée qu'il faut aller vite dans la carrière et qu'on n'a pas le droit d'avoir des temps morts, ou en tout cas des temps où on souffle, où on lâche un peu du lest. Donc, les entreprises de conseil qui ont commencé à se rendre compte que ça avait des effets inégalitaires entre les deux sexes. Inégalitaire pourquoi ? Parce que en fait, les femmes peuvent être amenées au moment notamment où elles deviennent managers, au moment où elles deviennent où leur carrière commence à prendre un tournant où on leur demande un engagement spécifique et une disponibilité temporelle spécifique. Souvent, ça coïncide en même temps avec l'entrée dans la carrière familiale, on va dire, dans la vie de famille, et avec toute une série de complexités pour articuler, arbitrer les temps de vie. Et dans ce cas-là, eh bien, en fait, un certain nombre de femmes, ça ressortait de mon étude, eh bien, en fait, elles décidaient tout simplement de sortir du jeu professionnel, de quitter le conseil, en estimant que puisque l'entreprise les forçait à suivre un certain rythme et que ce n'était pas possible, elles partaient. Donc l'entreprise perdait du capital humain et un certain nombre de femmes pleines de potentiel, finalement, lâchaient l'affaire. Alors il y a des entreprises de conseil qui ont jugé que c'était grave de faire ça.
Oui, bien sûr.
Et elles ont en fait mis en place des systèmes pour neutraliser les effets des congés maternité, par exemple, des grossesses, et pour permettre que, à des moments vraiment cruciaux pour la carrière, où c'est là où il va se passer des choses pour monter en compétences et en responsabilité, qu'on accompagne les gens qui ont à articuler vie professionnelle et vie familiale en permettant des aménagements du rythme de carrière, tout simplement, et en neutralisant dans les processus RH ce qui jouait à la défaveur des femmes.
Et ça, c'est entendable pour certaines entreprises de mettre en place tous ces process, ou c'est encore compliqué?
En fait, il y a des entreprises, c'est devenu complètement banal de faire ça.
Hein,
et des grosses entreprises de conseil le font, et ça a changé des choses sur le fameux plafond de verre dont on n'a pas encore parlé. Mais ce plafond de verre, c'est quoi? C'est le fait qu'au fur et à mesure de la carrière, du passage d'un niveau de responsabilité à un autre, les femmes commencent à disparaître progressivement. Il y a de moins en moins de femmes, y compris dans des entreprises où à la base il y avait 50-50, on se retrouve en haut de la pyramide, du côté du partnership, à plutôt 20% de partenaires. Où sont passées les femmes? Elles sont parties faire d'autres carrières parce qu'elles estimaient qu'elles ne pouvaient pas suivre le rythme d'une part, mais aussi parce qu'elles n'ont pas été promues, parce qu'à certains moments de la carrière, elles ont été un peu mises de côté. Voilà.
Alors, il y a l'aspect conciliation carrière personnelle et carrière professionnelle, mais il y a aussi, vous décrivez également cette figure idéalisée du bon consultant, du bon partenaire. Justement, comment elle s'incarne et comment expliquer cette construction compte tenu d'aujourd'hui? Ça fait des années maintenant que les femmes sont sur le marché du travail. Je veux dire, ce n'est pas une nouveauté.
Oui, ce n'est pas une nouveauté. Alors, en même temps, il faut se dire que dans le conseil, c'est relativement récent l'importance de la féminisation qu'on constate actuellement. Aujourd'hui, on est presque à 50% de femmes dans les métiers du conseil. Il y a des entreprises même où on est au-delà de 50% de femmes. Cette féminisation-là ou cette parité, elle est relativement récente. On a eu un changement autour des années 2000 où il y a eu une accélération des recrutements. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, le modèle professionnel, la culture professionnelle, on pourrait dire un peu l'imaginaire collectif aussi, c'est un peu ce qui est dans nos têtes, même si on ne s'en rend pas compte, c'est l'idée que les consultants, ce sont d'abord des hommes, parce que initialement c'était un métier, c'est un métier qui naît dans les années 1920, il est assez vieux déjà finalement ce métier. C'est à l'époque on appelait ça les organisateurs conseils, c'était des ingénieurs, c'était des petites entreprises, et ils allaient d'entreprise en entreprise pour organiser les usines, etc. C'était que des hommes. Pourquoi? Parce que d'abord les femmes ne pouvaient pas rentrer dans les écoles d'ingénieurs à l'époque, ne pouvaient pas rentrer dans les écoles de commerce, elles étaient victimes d'un certain nombre de discriminations. Ça a changé, elles ont pu accéder à toutes les études comme les hommes, mais il y a eu encore un temps très long où en fait les femmes ne sont pas rentrées dans ces métiers d'expertise qui étaient vraiment construits dans l'imaginaire, encore une fois, comme masculin.
Ouais.
Voilà. Alors cette figure que je dis idéal typique, c'est un peu une figure idéalisée, elle marque les esprits, elle continue à être dans les têtes et elle peut intervenir dans certaines interactions que les consultantes et les consultants peuvent avoir avec notamment les clients. Il y a des attentes socialement construites de quelle tête doit avoir un expert, un consultant, quel type d'interaction on va avoir. Et il y a encore un certain nombre de clients, hommes ou femmes, qui peuvent imaginer que le bon consultant, c'est plutôt un homme qui a plutôt telle ou telle tête, qui a fait plus ou moins telle ou telle école et qui s'adresse à eux, à elles, d'une certaine manière. C'est ça, une figure idéalisée. Alors, ça peut gêner certains moments les interactions d'une femme consultante qui est tout à fait compétente, qui a toutes les expertises, mais qui arrive et dont la présence, la simple présence, détonne parce qu'elle incarne, parce qu'elle représente dans l'imaginaire collectif. Voilà.
Alors justement, très bonne transition sur les interactions professionnelles, qui peuvent être des obstacles et qui polluent la vie des femmes au quotidien. Quels sont les risques face à ces comportements d'évitement pour l'évolution de carrière des femmes? Quels sont les petits exemples? Parce que je pense que c'est intéressant de raconter comment ça se concrétise au quotidien. Je pense que certaines de nos collègues se retrouveront dans ces petits témoignages, mais ouais, ça peut être très intéressant de nous expliquer comment ces interactions peuvent être des obstacles justement pour pouvoir prendre toute sa place dans l'entreprise.
Oui, alors tout à fait, Loubna. La première chose qui est importante à avoir en tête, c'est que le métier de consultant et de consultante, c'est un métier très relationnel. C'est un métier où, en fait, on fait le travail souvent en équipe. On construit les solutions et les diagnostics avec les clients. Et donc, en fait, il y a énormément d'interactions. C'est des métiers où il y a, bien sûr, qui sont intellectuels, mais qui sont aussi très, très relationnels. Ça veut dire que les situations de travail au quotidien, c'est beaucoup, beaucoup de rencontres avec plein de gens très différents dans l'entreprise qu'on conseille, comme au sein de sa propre entreprise, dans les équipes. Alors, ça, c'est une chose à avoir en tête. Alors, la chose qui vient ensuite et qui est spécifique à l'expérience des femmes, dans ce métier, encore une fois, qui est un peu construit d'un point de vue idéalisé comme un monde masculin, avec cette image de l'expert légitime qui est plutôt celui d'un homme, c'est que les femmes vont se retrouver parfois enfermées dans des espèces de pièges qui sont les stéréotypes qu'on leur colle, les étiquettes sociales qu'on leur colle. Alors, ces stéréotypes sexués et sexistes, ils sont un peu différents selon qu'on est consultante junior ou consultante senior. Si on est consultante junior, dans les interactions au quotidien, ce qui peut un peu poser problème, c'est des interactions, ça peut être avec des managers au sein de l'entreprise, soit avec des clients, au sein d'entreprises qu'on conseille, des interactions où il y a des quiproquos et où la jeune femme sent qu'elle est dans une situation où tout à coup ça devient de la drague, il y a une forme de sexualisation de l'interaction et le client devient irrespectueux et lui colle au fond une étiquette de séductrice. Alors ça a l'air un peu bizarre de le dire comme ça, mais finalement, dans mon enquête, c'est revenu très souvent dans les témoignages des femmes qui se disaient en tant que consultante junior, j'ai du mal à construire mon autorité. Ça, c'est normal. Un consultant junior homme peut aussi avoir des problèmes à construire sa légitimité technique. Rajoute à ça, pour moi, en tant que femme, le fait que régulièrement, je peux avoir des situations gênantes où un client me fait des propositions et je ne comprends pas du tout pourquoi, etc. Alors ça, c'est un peu le piège du stéréotype lié à la jeunesse articulée au fait d'être une femme. Puis quand on est une consultante plus âgée, en général, avec de la seniorité, on commence à encadrer des équipes, à encadrer des missions, à être dans des rôles commerciaux de leadership. Les constructions qui sont dans la tête de tout le monde, c'est que l'exercice de l'autorité par les femmes, c'est problématique, que les femmes ne sont pas douées pour l'autorité. Donc, alors même que toutes ces consultantes sont formées aux techniques de leadership comme les hommes et qu'elles ont tout à fait toutes les compétences, elles vont régulièrement se voir rencontrer des situations où les hommes ou les femmes clients, par exemple, vont un peu mettre en doute leur expertise, vont commencer à dire « mais vous en êtes sûre ?» et puis, par exemple, se tourner vers le membre masculin de l'équipe pour lui demander une confirmation, etc. Où elles vont se sentir, en quelque sorte, considérées comme moins pertinentes, moins expertes, tout simplement parce que y a des stéréotypes dans la tête. Et quand elles veulent affirmer leur autorité, elles sont prises un peu entre deux jeux. Il faut qu'elles choisissent entre deux mots. Soit passer pour une mère nourricière. Elles sont souvent enfermées dans des rôles maternels. On leur colle des rôles où il faut qu'elles encadrent, qu'elles chouchoutent, qu'elles rassurent. Le client va les envoyer pour rassurer, pour faire un travail émotionnel. Alors ça, c'est le stéréotype de la mère, le rôle maternel. Et l'autre stéréotype ou l'autre rôle qui les enferme un peu, c'est celui de la femme de fer. Si elles remettent de côté le rôle trop maternel et qu'elles disent « non, mais je ne suis pas là pour materner ni mes consultants, ni mes clients, je suis un consultant ou une consultante comme une autre », et qu'elles exercent leur autorité comme un homme le ferait, en fait, tout simplement, très vite, un stéréotype surgit, une méfiance par rapport à une sorte de désajustement dans la tête, dans l'esprit des interlocuteurs, de se dire « mais c'est pas possible qu'une femme exerce une autorité ». Et donc, on colle à ces femmes des stéréotypes de femmes de fer. Voilà.
Mais alors, comment rester professionnelle tout en restant femme? Ça a l'air compliqué. C'est-à-dire qu'elles doivent manœuvrer.
Oui, alors c'est tout à fait... vous avez bien résumé le dilemme. Alors, il y a une consultante, un jour, dans un entretien, qui me raconte son arrivée comme consultante junior dans une équipe qui était essentiellement masculine. Et elle auditait avec cette équipe une usine qui était composée essentiellement d'hommes. Et elle arrive, c'était une jeune ingénieure qui avait fait centrale, qui était pleine d'allant, pleine de dynamisme. Elle a le malheur en plus d'arriver en jupe. Et d'emblée, elle se prend des réflexions sur sa jupe, sur le fait que ça ne va pas du tout, une femme dans un atelier avec une jupe. Et puis, en fait, elle se fait prendre à part par son manager qui la recadre, en fait, en lui disant « Il faut que tu comprennes bien que tu n'es ni un homme, ni une femme, mais un consultant. »
C'est bien dit.
C'est bien dit. Et en fait, son manager, il avait bien résumé le dilemme auquel, ensuite, elle a été en permanence confrontée tout au long de sa carrière. Elle est devenue partenaire au fil du temps, cette femme. Et dans son expérience, eh bien, régulièrement... Elle explique qu'elle doit bricoler, c'est un espèce de bricolage identitaire, à la fois adopter un certain nombre de pratiques masculines, de comportements qui sont associés au masculin, on va dire ça plutôt comme ça. Mmh. Et puis en même temps, régulièrement, il faut faire attention parce que le regard qui est posé sur elle, qui a un regard socialement construit, qui peut être un regard posé par des femmes ou par des hommes d'ailleurs, est un regard qui regarde avec méfiance quand une femme fait preuve de trop d'autorité ou est trop sûre d'elle. Donc, elle doit adoucir, arrondir les angles. Donc, elle oscille.
Ça doit être épuisant au quotidien.
Alors, ça produit une charge mentale.
Mais oui. Et ça produit... j'osais pas utiliser le terme, mais je le pensais très fort, en effet.
Ça produit une charge mentale, ça produit de la fatigue, en fait.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'en fait, ça fait une dose de travail en plus à faire, qui est d'anticiper ce qui peut, dans les interactions, gêner le travail, en fait. Gêner la conduite du travail, puisque, encore une fois, comme on se l'est dit, le travail du consultant et de la consultante, c'est un travail relationnel, très, très fortement relationnel. Il faut que les interactions soient fluides. Donc, dès qu'on sent qu'il y a des désajustements, des gênes, ouais, il faut, en tant que professionnel, gérer cette difficulté spécifique. Et pour les femmes, il y a une difficulté qui se rajoute, quoi, voilà, et qui fatigue.
Est-ce que vous pourriez nous révéler un peu les stratégies d'évitement que mettent en place les femmes face à des situations où il y a des biais sexistes? Je trouve que c'est assez intéressant de voir comment on se comporte et quelles sont notre stratégie. Si vous pouviez nous expliquer un peu le process, ça serait très intéressant.
Oui, alors les femmes dans les situations professionnelles où elles sont confrontées à des biais sexistes, elles se comportent comme des professionnelles. Donc elles essaient de garder une relation professionnelle avec la personne et du coup elles sont confrontées à un dilemme. Elles vont peut-être devoir marquer le coup pour faire en sorte que la situation soit recadrée et pour que la personne les traite vraiment comme une professionnelle, une experte pleine et entière. Mais il va falloir aussi qu'elles banalisent, qu'elles euphémisent, qu'elles passent un peu l'éponge, parce que en tant que professionnelles, elles ne vont pas en faire tout un plat, comme on dit. Alors, ce tiraillement permanent, c'est une stratégie que j'ai appelée banaliser et marquer le coup. Les femmes, face à des situations où manifestement on se moque un peu d'elles, on est irrespectueux, ou on est face à des stéréotypes, des préjugés, c'est le cas aussi de toute personne victime de préjugés, elle va chercher à trouver un entre-deux. Mmh. Et cet entre-deux, ce derrière entre-deux chaises, ça les amène à devoir passer l'éponge sur un certain nombre de situations qui pourtant mériteraient des protestations. Mmh. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la situation va rester la même, ça ne va pas changer les choses. Et puis, sur certains comportements, là, elles vont agir, elles vont marquer le coup parce que ça rend trop difficile l'interaction. Mais elles vont quand même dans ce choix-là, qui est un peu une stratégie d'évitement ou d'arrondissement, arrondissage, je ne sais pas comment
arrondissement, c'est pas mal
arrondissement
aussi.
Des angles. Elles arrondissent les angles et elles euphémisent. Mmh. Et en faisant ça, les situations restent inchangées, hein, bougent peu. Il y a une autre stratégie aussi, qui est celle d'utiliser le préjugé, on appelle ça retourner le stigmate en disant « vous me prenez pour une idiote, eh bien je vous dis bah oui, peut-être que je suis une idiote, mais expliquez-moi mieux ». Alors c'est une stratégie de l'humour, on pourrait dire, c'est utiliser l'humour.
Ça c'est beaucoup utilisé en effet, ouais.
C'est beaucoup utilisé avec du bon et du moins bon. Quand on retourne le stigmate comme ça, bien sûr on brise la glace, on calme le jeu, ça permet à la situation de se normaliser, mais en même temps, on est un peu prise au piège du préjugé de l'étiquette sociale qu'on vous a attribuée. On vous a traité comme une idiote, vous dites « eh ben oui, je suis une idiote, eh bien parlez-moi comme à une idiote ». Vous avez fait rire, mais effectivement, vous avez maintenu le préjugé, vous avez confirmé dans votre discours le préjugé. Donc c'est une stratégie très inconfortable finalement.
Oui, parce que ça délégitime la personne aussi également.
Ça délégitime, ça maintient l'illégitimité attribuée à cette personne, voilà. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, je vais finir peut-être là-dessus, c'est que, en fait, les stéréotypes, ils ont des effets. Hein, ils ont des effets concrets. Ils ont deux types d'effets. Le premier type d'effet, c'est dans la tête des gens qui, par exemple, évaluent ou interagissent avec une personne qui est étiquetée, stéréotypée, c'est que ça crée des biais.
Oui.
Quand on est convaincu, quand on a un préjugé sur une personne, on attend que ce préjugé soit confirmé. Donc, en fait, quand on regarde sa performance, quand on regarde ce qu'elle fait, tout ce qui va dans le sens du préjugé, il est confirmé et on ne voit que ça. En revanche, quand cette personne fait une performance qui est contraire au préjugé, eh bien le biais cognitif qui va avec, le biais lié au stéréotype, va faire qu'on va ignorer cette performance ou ce trait parce que ça ne correspond pas au préjugé. Donc ça a des effets sur les personnes qui évaluent notamment les stéréotypes. Hein, et du coup sur les personnes qui sont évaluées, évidemment. Qui sont du coup évaluées de manière biaisée. Il y a un autre effet, c'est sur les personnes elles-mêmes qui sont victimes de stéréotypes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype, on est convaincu que cette étiquette, c'est vrai. À force qu'on nous colle une étiquette, on finit par rentrer dans des stratégies, soit de mise en retrait, soit de se dire, c'est, on pourrait dire la prophétie qui se réalise, bon... effectivement, bah oui, là, j'ai pas bien performé, bah oui, ça va avec le stéréotype qui m'était associé. Et donc, ça produit aussi des formes de sous-performance, mais qui sont générées par l'enfermement d'une personne dans une case, quoi. Voilà.
C'est dangereux.
C'est très dangereux parce que, là encore, si on raisonne en termes de capital humain pour l'entreprise, laisser s'installer des stéréotypes sur des personnes, c'est empêcher que le capital humain de cette personne soit pleinement utilisé.
Bon, on va essayer de trouver quelques petites solutions. Peut-être, vous demandez pour terminer, est-ce qu'il y a des garde-fous, des solutions à pouvoir mettre en place pour garantir cette égalité femmes-hommes, même si je sens que les femmes sont déjà bien à la manœuvre et essayent d'osciller, de naviguer. Mais nous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et est-ce qu'il y a 2-3 solutions? Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de solution magique, mais qui peuvent désamorcer ou en tout cas permettre d'avancer dans le bon sens.
Alors, ce qui peut permettre d'avancer dans le bon sens, c'est plusieurs choses. Je pense que l'idée, c'est d'articuler plusieurs types de soutien et d'aide pour faire en sorte que l'environnement de travail soit plus inclusif, tout simplement, plus égalitaire. Alors, c'est vrai que tout ce que j'ai décrit dans les difficultés interactionnelles, on peut dire ça comme ça, relationnelles, qui peuvent surgir sur le chemin du travail des femmes consultantes, l'entreprise ne peut pas être tout le temps là à dire stop, arrêtons, etc. En revanche, ce que chacun, chacune peut faire au sein de l'entreprise, du top management jusqu'aux collaborateurs, aux collègues les plus proches, c'est d'abord du soutien social. C'est-à-dire que femmes et hommes, si on constate, si on voit qu'il y a des différences de traitement, tout simplement être là et dire à la personne « j'ai vu ce qui s'est passé, je te soutiens, tu n'es pas seule, c'est pas normal ce qui s'est passé ». En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les interactions qui se passent pas bien pour toute personne normalement constituée, femme ou homme, on se pose la question « est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?»
Oui, bien sûr. Ouais, c'est
et
vrai.
En général, on culpabilise alors qu'on n'y est pour rien, quand on est victime d'un stéréotype. Et donc là, ce qui change tout, pour éviter d'être isolé dans cette question lancinante, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'aurais dû m'habiller différemment? Est-ce que j'aurais dû parler différemment? Il faut que les gens autour de vous vous rassurent. Alors, l'entreprise, elle peut faire ça, elle peut mettre en place un système qui incite tout le monde à participer au soutien social et à collectiviser le problème, à se dire que c'est le problème de
tout le monde.
Tous.
Mais oui.
Bon, et puis on a évoqué aussi tout à l'heure le fait qu'il faut aussi travailler sur tous les processus RH pour s'assurer qu'ils sont vraiment égalitaires. Est-ce qu'on évalue sans biais les femmes et les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas des stéréotypes qui se nichent dans la manière dont on évalue les performances? Donc là, il y a toutes sortes d'exemples dans mon enquête qui ont montré qu'il y a des entreprises qui se sont posées la question de l'évaluation et qui se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs, qui sont liés aux stéréotypes, aux biais de genre, qui font qu'on n'évalue pas les femmes et les hommes exactement de la même façon. Et pour changer ça, elles ont remis en place un certain nombre de garde-fous dans leur processus RH, d'accord, dans leur processus d'évaluation, par exemple. Ça, c'est un exemple, par exemple. Dans le recrutement aussi, sur les manières de poser ou ne pas poser certaines questions aux femmes et aux hommes, il faut s'assurer qu'on est vraiment égalitaire, qu'on pose vraiment les mêmes questions et qu'il n'y a pas des biais qui rentrent en jeu dans la manière dont on recrute, dont on sélectionne. Donc ça, c'est aussi des actions très concrètes que les entreprises peuvent faire.
Et accompagner nos collègues dans leur parcours personnel.
Tout à fait.
Je n'ai pas envie de parler de maternité, j'ai plutôt envie de parler de parentalité. Mais voilà, ça, c'est important
aussi. Ça, c'est un
aussi,
élément
ouais.
extrêmement important parce qu'effectivement, l'étude a mis le doigt sur le fait qu'il y a une période cruciale et une période très, très fragilisante, mais aussi pour les hommes d'ailleurs, qui est la période d'entrée en parentalité. Que ce soit le premier ou le deuxième enfant. En tout cas, il se passe quelque chose qui est que tout à coup, l'ordre des priorités devient beaucoup plus compliqué à fixer et que la vie est bouleversée par l'arrivée d'un enfant. Et en fait, l'entreprise, elle peut avoir un rôle d'atténuatrice des difficultés en aménageant des temps, en aménageant un accompagnement pour que la personne puisse, par exemple, revenir d'un congé maternité dans de bonnes conditions, retrouver un staffing qui lui permet d'assurer une conciliation sur les premiers mois de la vie de l'enfant, qui sont des mois souvent compliqués. Et aussi, encourager le congé paternité, ça, c'est un point important, parce qu'un des facteurs d'égalité, ça a été prouvé, les entreprises qui ont beaucoup agi sur le temps de la parentalité et qui ont cherché à promouvoir l'égalité, elles mettent souvent en avant le fait que c'est important que les hommes aussi, on les incite, on les encourage, qu'on leur envoie des signaux positifs en leur disant que là, eux aussi, ils ont le droit à être pères et eux aussi, ils ont le droit d'y consacrer du temps.
Vous me rassurez, on a des leviers pour quand même pouvoir faire en sorte que ça s'améliore, même si, en effet, on sent que ça prend un peu de temps, mais ça avance dans le bon sens. Peut-être pour terminer, j'avais une petite question sur vos prochains travaux. Il y a peut-être déjà une réflexion sur la prochaine thématique.
Alors, en fait, j'ai plusieurs projets en parallèle. Alors, déjà, une des choses que je continue à faire, c'est un suivi de mes enquêtés. Ça, c'est important. Pour moi, c'est important de comprendre comment les entreprises évoluent dans le temps. Donc, je suis des entreprises et des carrières régulièrement, des personnes, pour savoir comment leur carrière évolue et s'il y a des choses qui ont changé dans leur environnement professionnel et pour étudier des cas d'entreprises particulièrement innovantes sur les questions d'égalité, notamment. Le deuxième axe, pour moi, ça a été de diversifier mes cas d'études et j'ai travaillé notamment sur le monde du droit, sur le monde des avocates et des avocats pour comparer le monde du conseil avec un autre monde professionnel d'experts et pour voir les points communs et les différences.
Ça doit être très intéressant.
C'est très intéressant.
Hâte de partager cela avec vous. En tout cas, merci d'avoir pris ce moment avec nous et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Merci Lumna. Au revoir.
Assain! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça?
Vous mériteriez vraiment d'être blanc.
J'ai jamais pu saquer les gouines.
Je suis bien d'accord avec la blanche.
Viens là, Tarlouse.
Pas de bras, pas de chocolat.
Moi, là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste.
Ok, bon boulard!